Poursuivons notre parcours dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, page 124. Je lirai les versets 8 à 17 pour que nous ayons encore bien en tête le contexte. Mais le texte plus précis pour la prédication, ce sont les versets 12 à 14. Donc Jean, chapitre 15, à partir du verset 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Prions ensemble, notre Dieu. Père céleste, ta parole est radieuse, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Purifie-nous par ta parole. Transforme-nous par la puissance de ta parole et de ton Esprit Saint, viens nous visiter d'en haut, viens dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que nous puissions recevoir ta parole, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fasse porter beaucoup de fruits à ta gloire. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il n'a jamais été aussi facile de se faire des amis. Si quelqu'un veut faire de vous son ami, il suffit de cliquer en haut à droite, puis de cliquer sur paramètres, et puis cliquer ici, et voilà, on vient de créer un nouvel ami. C'est facile, n'est-ce pas? Et si vous voulez supprimer des amis gênants, bien la procédure est tout aussi simple. On peut avoir plusieurs centaines d'amis Facebook. Il y en a qui en ont des centaines et des centaines et des milliers. C'est merveilleux. Sans compter tous les liens qu'on peut développer avec tant d'autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, WhatsApp, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et ces réseaux peuvent être très utiles, même pour faire connaître l'Évangile, et nous devrions utiliser davantage ces moyens qui sont à notre disposition pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais quand même, avoir 500 amis, ne me dites pas que ce sont tous de vrais, authentiques amis. En même temps, nous vivons à une époque où les gens n'ont jamais autant souffert de solitude. Les CHSLD sont remplis de personnes âgées qui ne reçoivent pratiquement jamais de visite. Les personnes séparées, divorcées, veuves, célibataires, vivent seules et parfois les liens familiaux sont brisés. Parmi les jeunes, un nombre quand même assez marqué, souffre de profondes solitudes et passe rarement du temps physiquement avec d'autres personnes. La solitude est devenue une épidémie, c'est ce qu'on nous dit. Une bien triste réalité. En même temps, c'est une belle occasion qui nous est donnée de faire connaître la richesse de l'Évangile. Dans notre texte, Jésus nous dit au verset 12, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Voilà un très grand commandement, plein de force et de beauté. L'Église de Jésus-Christ est une communauté de croyants où l'amour véritable existe. L'amour véritable, authentique, se trouve dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, cet amour n'est pas parfait, et quand on entend ce commandement, bien sûr, ça peut nous humilier beaucoup. La pensée individualiste nous influence, notre nature pécheresse nous rend égoïstes, d'où l'importance de ce commandement, de revenir à ce commandement. Nous en avons besoin. Et le Saint-Esprit est puissant pour écrire dans nos cœurs ce commandement et pour nous rendre capables d'y obéir, de nous aimer les uns les autres, au moins de commencer. Et alors, l'Église tranche avec le monde. L'Église est la lumière du monde. L'Église est un lieu privilégié où l'amour existe par la puissance du Saint-Esprit, par la présence du Seigneur Jésus. Alors voici donc le message pour aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimé. Nous verrons deux choses concernant cet amour. La démonstration de cet amour, premièrement. Comment cet amour se démontre, s'exprime. Et deuxièmement, la source de cet amour. D'où vient la force, l'énergie d'avoir cet amour. Donc, la démonstration de cet amour, premièrement. Jésus donne ce commandement dans un contexte bien précis. Nous connaissons très bien ce contexte maintenant, dans la chambre haute. Jésus prépare ses disciples à ce qui s'en vient. Sa mort toute proche, sa résurrection, sa montée au ciel, le don du Saint-Esprit, il annonce tout ça à ses apôtres. Il prépare ses apôtres ainsi à la grande mission qu'ils auront à accomplir, annoncer l'Évangile aux nations, poser le fondement de l'Église, construire l'Église du Seigneur. Jésus vient juste de leur dire, au début de Jean 15, « Moi, je suis le cep, vous les serments. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. » Le fruit, nous le voyons dans tout ce chapitre, est très important. Le fruit démontre visiblement une réalité cachée, une réalité invisible. Nous ne voyons pas la vigne, n'est-ce pas? Jésus est monté au ciel maintenant, il n'est plus là, physiquement, visiblement avec nous. Nous ne voyons pas non plus le lien qui unit les branches à la vigne. Le Saint-Esprit agit secrètement dans nos cœurs pour nous donner la foi, pour faire grandir notre foi. Ça ne se voit pas non plus. Par contre, nous voyons le fruit sur les branches. Le fruit de l'Esprit. Le fruit démontre que la vie, que la sève circule dans les branches. Le fruit démontre que nous sommes unis à Jésus-Christ, que nous lui appartenons. Le fruit est produit par la puissance du Saint-Esprit et non par nos propres forces. Et ce fruit se voit. Ce fruit doit se voir. Par sa nature, c'est visible. Ça doit se voir en nous et à l'intérieur de l'Église. Quel fruit allons-nous porter? Dans le contexte, Jésus a déjà mentionné la joie au verset 11. Il a aussi mentionné la paix au chapitre précédent. « Je vous donne ma paix. » Et maintenant, il parle de l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, nous dit Paul en Galates 5. C'est le premier fruit qu'il mentionne. L'amour que nous aurons les uns pour les autres, en particulier dans l'Église, c'est la démonstration visible et tangible de l'œuvre de l'Esprit-Saint dans nos cœurs. Mais à quoi ressemble ce fruit? Beaucoup de gens parlent d'amour, Mais ça ressemble à quoi l'amour que le Seigneur nous commande d'avoir? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Notre amour pour les autres doit ressembler à l'amour que Jésus-Christ a eu et a encore pour nous. Rien de moins. Mais à quoi ressemble son amour? C'est d'abord un amour sans réserve. Jésus ne s'est pas limité à aimer ceux qui sont aimables ou quand ils sont aimables. Jésus est allé s'asseoir avec des collecteurs d'impôts, avec des prostituées. Il est allé parler à la femme samaritaine qui avait eu plusieurs maris et qui vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Jésus a rassemblé un groupe d'hommes autour de lui qui se querellaient entre eux pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Ici, dans la chambre haute, nous savons que dans quelques instants, Pierre va le renier, les autres vont l'abandonner. Et Jésus, lui, est-ce qu'il est surpris, tout étonné de ça? Est-ce qu'il va les laisser tomber? Non. Il les aime tellement qu'il s'en va mourir pour eux. Jésus aime des gens qui ne sont pas aimables. Vous allez me dire, oui, mais quand même, ici, Jésus nous appelle ses amis, n'est-ce pas? C'est vrai, nous lisons au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami. » Nous sommes ses amis, comme les disciples de Jésus étaient ses amis, de vrais amis. Et c'est très beau, c'est magnifique d'entendre cette parole. Mais avant d'être ses amis, ces hommes étaient ses ennemis. Et nous aussi, nous étions ses ennemis. Paul le dit en Romains 5. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Lorsque nous étions ennemis, et nous sommes devenus réconciliés, amis. L'amour de Dieu est tellement puissant qu'il transforme des ennemis en amis. Et pour ça, il a fallu un amour sans réserve. Jésus a aimé des personnes qui n'étaient pas aimables. Pourquoi nous aime-t-il? Pourquoi nous aime-t-il? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est la raison. Point. À la ligne. Il n'y en a pas d'autre. Alors, comment devons-nous aimer nos frères et sœurs dans l'Église? Comment démontrer cet amour? Comme Jésus nous a aimés. Nous n'allons pas aimer seulement ceux qui sont aimables ou lorsque les autres sont aimables. Nous aimerons ceux qui ne sont pas aimables. Vous savez, c'est dangereux de se connaître, hein? D'apprendre à se connaître. Nous aimons ceux qui sont aimables, mais à mesure que nous apprenons à nous connaître, notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos collègues de travail, nos frères et sœurs dans l'Église, nous nous mettons à découvrir leurs péchés, leurs défauts, leurs manies, les choses qui nous irritent. Et là, on dirait qu'ils deviennent moins aimables. Les amis Facebook sont faciles à aimer parce qu'ils sont loin, ils sont distants, et ils peuvent mettre un masque, ils peuvent bien se présenter. Ça va bien. Mais quand on se frotte de proche aux autres, c'est là que la vraie amitié est testée. Et c'est là que le vrai amour est mis à l'épreuve. Ce n'est pas difficile, d'ailleurs, de trouver des personnes qui ne sont pas toujours aimables. Il suffit de regarder autour de nous, et il suffit de me regarder, vous allez trouver des personnes qui ne sont pas toujours aimables, n'est-ce pas? Que faire avec des frères, avec des sœurs dans l'Église qui sont parfois moins aimables? Devons-nous essayer de les éviter, ne pas leur parler? Parfois, on aimerait pouvoir cliquer sur le bouton « supprimer », mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous a placés ensemble dans son Église pour nous donner une magnifique occasion de démontrer un amour sans réserve. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Avons-nous cet amour sans réserve pour nos frères et sœurs dans l'Église? L'amour du Seigneur possède aussi une autre caractéristique. C'est d'abord un amour sans réserve, c'est aussi un amour qui se donne. Un amour sans réserve ne regarde pas si l'autre est aimable, si l'autre va nous apporter quelque chose. Un amour qui se donne ne regarde pas ce que ça va nous coûter. Verset 13, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà une parole sublime de notre Seigneur Jésus-Christ. Une parole certainement qui brûlait sur ses lèvres, qui brûlait dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il était sur le point de donner sa vie pour ses brebis. Il était sur le point de mettre en pratique cette parole. Il s'y prépare depuis longtemps, mais là, ça y est, c'est l'heure du grand sacrifice. Il va payer le prix le plus élevé, le prix de sa propre vie pour des pécheurs comme nous. Toute une démonstration d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour. Et Jésus sait parfaitement que c'est lui qui fera la démonstration du plus grand amour qui soit. Un amour qui se donne, un amour sacrificiel, qui se donne sans compter. Alors, comment aimer nos frères et sœurs dans l'Église? Comme Jésus nous a aimés. Un amour qui se donne. Donner notre temps. Donner notre attention, notre écoute. Donner notre énergie, nos talents, notre argent. Donner notre patience, nos paroles d'encouragement. Se donner soi-même. Un jour, il y a plusieurs années, une jeune dame m'a écrit ceci. « Ouais, Paulin, ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens 5 à propos de la soumission de la femme à son mari, c'est plate un peu, hein, n'est-ce pas? » Ouais, c'est vrai, c'est plate un peu. Mais as-tu remarqué ce que Paul dit au mari au verset suivant? C'est plate, pas à peu près. « Marie, aimez chacun votre femme » comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme il s'est sacrifié pour elle. Comme il s'est donné pour elle quand il était suspendu sur la croix. Vous les maris, votre amour pour votre femme ressemble-t-il à l'amour du Christ pour son Église? Nous avons du pain sur la planche. Et vous tous, frères et sœurs, grands et petits, avez-vous cet amour sacrificiel qui se donne, un amour les uns pour les autres? Est-ce vraiment plate de donner sa vie pour ses frères et sœurs? Oui et non. Oui, parce que généralement, d'habitude, nous ne sommes pas portés à donner notre vie pour les autres. Ce n'est pas notre tendance naturelle, surtout quand les autres ne sont pas toujours aimables. Non, parce que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Il ne nous laisse pas à notre nature, à nos tendances naturelles pécheresses. Petit à petit, il met dans nos cœurs ce même amour pour les autres. Et avec cet amour, avec ce fruit de l'Esprit, il donne les autres fruits de l'Esprit. Il donne aussi la joie et il donne aussi la paix de le faire, d'aimer de cette manière qui se donne. C'est une joie d'obéir au Seigneur. C'était une joie pour Jésus d'être là dans la chambre haute. Il vient de le dire. Je vous donne ma joie. Et il a dit aussi, je vous donne ma paix. C'est une joie aussi de présenter ce témoignage au monde. En Jean 13, 35, donc deux chapitres précédents, Jésus avait déjà donné ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et au verset 35, il dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nous sommes empreints, comme dit une certaine chanson. » Prions, prions pour que nous puissions présenter ce témoignage collectif au monde autour de nous. Le monde a désespérément besoin de voir cet amour entre nous. Et pour cela, nous avons besoin d'aller à la source de cet amour, de courir vers la source de cet amour. C'est notre deuxième partie, la source de cet amour. Sans la source de cet amour, nous sommes fichus. Le commandement d'aimer est trop élevé et il ne fait que nous accuser. Nous n'y arriverons jamais par nous-mêmes. Mais il y a une espérance. Il y a une bonne nouvelle. Celui qui nous a commandé d'aimer est lui-même la source de cet amour. Il est celui qui va nous rendre capables progressivement d'aimer. Pour pouvoir aimer comme Jésus nous a aimés, il faut que nous soyons transformés par son amour. Jésus-Christ est puissant pour transformer des ennemis de Dieu et faire d'eux des amis de Dieu. Jésus dit au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et là, on s'est dit, à première vue, on a l'impression que ça dépend de nous, hein? Si vous faites ce que je vous commande, alors je vous accepterai comme ami, mais pas avant. Mais ce n'est pas du tout le sens de cette parole. Hein? Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de notre obéissance qui va ensuite faire de nous ses amis. Jésus vient juste de dire que pour porter du fruit, il faut être attaché à la vigne. Verset 5, « Moi, je suis le cep, vous les serments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est impossible d'aimer comme Jésus nous a aimés si nous ne sommes pas d'abord transformés par Jésus-Christ lui-même. Le jardinier qui prend soin de la vigne ne se dit pas, « Je vais partir à la recherche de branches mortes, pour essayer de voir s'il y en a qui sont pleines de fruits. Et là, quand je vais en trouver, je vais les prendre. Et là, ensuite, je vais les greffer à ma vigne. Mais il faut d'abord qu'elle porte du fruit. » Mais non, c'est absurde. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, » dit Jésus. Il faut d'abord que les branches soient rattachées à la vigne et qu'elles reçoivent de la vigne la vie nouvelle pour recevoir ce qui est nécessaire, l'énergie nécessaire pour porter du fruit. Sans Jésus-Christ, sans son amour, nous ne pouvons pas aimer comme lui. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, c'est-à-dire, si vous portez du bon fruit, c'est la preuve que vous êtes rattachés à la vigne. Si vous faites ce que je vous commande, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est la démonstration que vous êtes mes amis. Ce n'est pas la condition pour devenir ami, c'est la démonstration que nous le sommes. Ce n'est pas notre obéissance qui fait de nous des amis de Jésus, c'est Jésus qui fait de nous des amis de Jésus. Et parce que nous sommes devenus ses amis, nous vivons dans l'obéissance, nous commençons cette nouvelle obéissance. Cela veut dire que pour pouvoir nous aimer les uns les autres dans l'Église, nous devons d'abord être restaurés dans notre relation avec Dieu. Ça doit commencer par la ligne verticale, avant de s'étendre à l'horizontale entre nous. Où trouver cette restauration avec Dieu? À la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il a pris sur lui notre manque d'amour. Il a pris sur lui notre égoïsme, notre indifférence à l'égard des autres, notre orgueil. Il a pris sur lui nos chicanes conjugales et familiales, nos querelles dans l'Église. Sur la croix, il s'est écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était le prix à payer. Nos ruptures de relations lui ont coûté sa rupture de relation avec son Père. Abandonné par son Père pour que nous soyons premièrement réconciliés avec Dieu et deuxièmement que nos relations avec les autres soient restaurées. Il a donné sa vie pour ses amis pour que nous fassions preuve du même amour envers les autres. Et vous savez, Jésus connaît parfaitement notre manque d'amour pour les autres. Il connaît parfaitement nos conflits, nos ruptures de relations. Il en a lui-même payé le prix. Il a été abandonné aussi par ses amis, par son père, mais par ses amis aussi. Il a souffert la pire solitude, seul, sur la croix, comme punition pour nos manques d'amour. Renié par un ami proche, trahi par un autre proche, abandonné par ses compagnons d'œuvre, suspendu sur la croix dans l'obscurité complète pendant 3 heures à subir la colère de Dieu à notre place, sans amis, sans compagnons pour le soutenir, pour l'encourager. Pour que nous devenions amis de Dieu et amis de Jésus. Relation restaurée avec Dieu, premièrement, pour que ensuite nos relations soient restaurées entre nous. Il y a un ordre de priorité. Son amour pour nous est puissant pour produire en nous le bon fruit de l'amour envers nos frères et sœurs dans son Église. Jésus nous dit, « Vous êtes mes amis. » N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas très beau? « Vous êtes mes amis. » Nous avons désespérément besoin de son amitié et de son amour pour pouvoir aimer comme il nous a aimés. Et par la foi, nous saisissons cette amitié, cet amour. Par la foi, nous sommes ses amis, des amis proches. Avec lui, nous ne sommes pas juste des amis lointains comme des amis Facebook. Nous sommes des amis proches de lui. Il nous connaît, il nous comprend. Il a compassion de nous dans nos faiblesses. Nous ne pouvons pas mettre un masque, nous présenter mieux que nous sommes. Il connaît tout de nous. Et lui seul peut véritablement combler nos cœurs, combler notre besoin d'être aimé. Lui seul peut combler notre besoin d'amitié et d'amour. Souvent, nous espérons qu'une autre personne prenne sa place. Nous remplaçons le Seigneur par notre femme ou par notre mari, par notre copain ou par notre copine, par un ami, par un membre de la famille. Nous pensons que cette personne pourra combler nos cœurs. Cette personne, au contraire, devient alors une idole qui remplace Dieu, qui remplace notre Sauveur. Nos relations avec les autres, certainement, elles sont très importantes, mais à leur place, dans un ordre de priorité. La priorité consiste à demeurer dans l'amour du Seigneur Jésus. Et alors, ensuite, par le Saint-Esprit qui œuvre dans nos cœurs, nous pourrons aimer notre prochain comme il nous a aimés. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour, dit-il, et vous porterez du fruit, beaucoup de fruits. Mais que faire quand les gens autour de nous n'ont pas cet amour pour nous? Que faire quand nos amis nous déçoivent? Quand des membres de notre famille même nous trahissent? Quand notre compagnon, notre compagne nous abandonne? Eh bien, revenons à la source de cet amour, la source du véritable amour, pour nous abreuver de cet amour. Revenons à Jésus-Christ. Il est fidèle. Il est toujours le même. Nous sommes encore ses amis. Il nous connaît, il nous comprend, il a compassion, il entend nos prières. Psaume 56, 9 nous dit qu'il voit nos larmes. Dieu, c'est la prière qui dit « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Nous sommes ses amis, il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous trahir, il ne va jamais nous décevoir. Il est tout puissant, il connaît tout, il est amour. Et nous sommes ses amis pour toujours. Amen.